bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 23.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Thomas.
Salut.
Comment ça va Vic?
Ça va très bien Thomas.
Comment ça
merci.
Va Florian?
Bah, ça va.
Ça va bien bon.
Ça va.
Florian est fatigué.
Je suis fatigué.
Wow. Petite forme.
Mais je vais tout donner pour vous, pour les auditeurs. Je vais respecter les auditeurs très très fort.
Bah, respecte-les très très fort parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode anniversaire d'Alien et les garçons.
Exactement.
Ça fait un an que le podcast existe. Bravo.
Ouais. Aujourd'hui, date de l'enregistrement, aujourd'hui, date de diffusion. Quand
date
on diffusera.
Date de diffusion. Parce qu'enregistrement, je crois qu'on avait enregistré genre en juillet ou un truc dans le genre.
En tout cas, c'est le 23 septembre 2018, lancement. Et là, nous sommes donc le 23 septembre 2019.
Alors, pas ouais. Quand on diffusera cet épisode, ça sera le 23.
Évidemment.
Et donc, ça fera un an.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est quoi un épisode spécial un an, Vic?
Un épisode spécial un an, c'est un épisode où on n'a pas choisi un thème des auditeurs.
Exactement. Et pourquoi?
Et parce qu'en fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en épisode pour cet anniversaire. Et on s'est dit qu'on allait écrire la suite de nos chroniques qu'on a diffusées lors de la saison 1, lors de la précédente saison d'Alien et les garçons.
C'est exactement ça.
Mais petite subtilité. Oui. On n'écrit pas la suite d'une de nos chroniques, on écrit la suite de la chronique d'un autre.
Tout à fait.
Chroniqueur. C'est technique
ce qui est,
à dire.
Ce qui est, je sais pas pour vous, mais ce qui est super dur, en vrai. Parce qu'il ne faut pas écrire dans le même style, mais il y a quand même...
Moi j'ai changé le style.
Puis il faut choisir une chronique aussi qui n'est pas finie.
Pour vous expliquer, on ne s'est pas révélé quelle chronique on avait choisie. Moi j'ai pris la suite, j'ai pris une chronique de Thomas.
On va révéler tout de suite, tu vas nous dire de quoi parle la chronique du coup.
On va les révéler, comme ça ce sera plus simple de suivre nos différents textes pour la compréhension. T'as une idée ou pas de la chronique
On t'entend quand tu te frottes la barbe, c'est sexy.
Non, mais surtout, ça fait un peu la pipe, tu vois.
La pipe.
C'est autre chose. Moi, je peux pas le faire, vous remarquerez.
Oui, c'est vrai.
Non, vous n'entendez pas.
T'es lisse comme un...
Exactement.
Alors, j'ai une idée de quelle chronique tu as pu...
En fait, j'ai hésité entre trois de tes chroniques.
Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être le spécial magie, non? Gars qui se réveille, non?
Non, j'ai pas.
Moi, j'aurais choisi, à ta place, j'aurais choisi l'épisode sur les implants, sur les clairvoyants.
C'était dans mon top 3.
C'était un grand succès.
L'épisode sur les clairvoyants.
Ah, peut-être celui sur les fusées, l'épisode 21, celui sur les fusées.
C'était mon deuxième que j'ai pas choisi.
J'aurais bien aimé parce que c'est ma chronique préférée, moi.
C'était les chroniques d'Archie, c'était ma deuxième, j'ai failli. Mais.
Et donc, tu as
J'ai choisi ta chronique sur les songeurs, l'épisode poil.
J'aurais choisi. Ouais, c'est donc, plus ou moins la même construction.
Tu peux nous expliquer ce que c'était pour les auditeurs qui nous auront pas écouté, qui sont vraiment des mauvais auditeurs vilains.
Voilà.
Vilains.
Donc, la chronique de Thomas, donc celle dont j'écris la suite un an plus tard, était une chronique sur les songeurs.
Oui.
Où il expliquait en fait qu'il y avait une nouvelle république en France, donc c'est la nouvelle république française, et qui a cloné des grands penseurs français.
Tels que Voltaire,
Napoléon, Diderot, il y a Napoléon, il y a plein de grandes personnalités françaises pour les mettre dans des espèces de tubes avec du liquide nutritif et les faire se parler entre eux et prendre les grandes décisions pour la nouvelle République française à la place d'un éventuel gouvernement. En gros, le gouvernement ne ferait que
appliquer ce qu'ont pensé ces gens-là.
Voilà, ce qu'ont pensé cette assemblée de penseurs, de songeurs. Donc voilà, moi j'ai
écrit la suite de ça. Donc
exactement.
Ça va être intéressant. Et si vous voulez réécouter épisode 19, voilà. Merci. J'enchaîne.
Allez, enchaîne Thomas.
Alors, toi, t'as écrit sur...
Moi, j'ai écrit sur Florian.
J'ai écrit sur Florian.
Je l'ai déshabillé. J'ai pris la plus belle plume et j'ai commencé
à
griffonner son corps superbe. Moi, je t'ai écrit à partir de l'épisode 15 de Florian, qui était l'épisode mémoire. Et où tu as parlé du palais mémoriel.
Intéressant.
En fait, donc pour rappeler, c'est Florian. Enfin, Florian. En plus, c'était assez. C'était à la première personne et c'était vraiment toi qui parlais.
Ouais.
C'était toi qui te baladais dans ton palais mémoriel, qui est une sorte de technique
mentale
pour se souvenir des choses en fait. Et tu te baladais, tu voyais des tableaux, des souvenirs, etc. Et jusqu'à ce que tu finisses par trouver le code pour entrer chez moi pour venir boire un coup.
c'était une sacrée chute.
C'était une superbe chute.
Tout à fait.
Alors qu'il y avait toute une ambiance un petit peu enlevée. C'était très cool, très bonne chronique. Et du coup, j'ai écrit la suite de ça.
Très bien.
On va retrouver la suite de notre...
Tu vas être dans la tête de Florian.
Exactement. Et Dieu sait que c'est le bordel là-bas. Et toi, Florian, en parlant de ta tête, qu'est-ce qui a germé comme idée?
Alors moi, j'ai écrit la suite de la chronique. Je suis en train de chercher en ce moment même le numéro
de
l'épisode.
Est-ce que tu es en train de la finir même?
Ça, c'est vrai que pour une fois, j'ai écrit très tard comparé à d'habitude. Mais non, je suis en train de chercher le numéro de l'épisode. Je ne l'ai pas, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, je vais écrire la suite de Castor Lynch de Nazareth.
Ah, tu t'es lancé.
Je me suis lancé sur cette chronique. Je voulais pas me lancer sur cette chronique parce qu'elle est extrêmement compliqué à la base.
Tu m'avais dit.
Mais à la fois, je trouvais ça vraiment trop cool de continuer
Tu pourrais expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui n'ont pas écouté Vilain.
Alors,
Vilain.
Tout à fait, je viens de retrouver l'épisode. C'est l'épisode 18. Ça s'appelle Castor Lynch de Nazareth. Et en fait, l'idée, c'est un métamorphe qui vient de se faire capturer et va se faire emprisonner, du coup vient de se faire juger en fait, c'était un, pendant son procès,
ouais.
Et parce qu'il avait tué des dizaines et des dizaines de personnes, parce qu'il était à la recherche du tueur de son amoureuse qui s'appelle Martha Amour de Boise, c'est cela ?
Oui, c'était plus une espèce de maman, plus que son amoureuse, mais bon.
D'accord.
Il était un peu débile.
C'est ça, il était un peu bébête.
Il était un peu bébête, c'est exactement le terme, ouais, bravo. Vilain castor.
Et à la fin de l'épisode, on apprend que c'était un métamorphe, que c'était lui, Simple même. Task Junior 3, qui était Castor Lynch de Nazareth, qui était un métamorphe, qui était aussi...
Bon, dans l'épisode précédent, j'ai rien compris.
C'était extrêmement compliqué. Le suspect du podcast un petit peu.
Et c'est pour ça que du coup, j'ai eu du mal à bosser dessus, et au final, c'était très intéressant de travailler dessus.
Très bien, c'est pas le travail qui te fait peur, toi.
Non, jamais.
C'est ce qu'on se dit.
Bah, tu vas passer
quand il s'agit de couper du bois, il faut toujours toi. Tu fais, moi j'y vais, tu lèves la main, je fais pas de problème, je vais couper du bois. Une fois, il a même fait ça, il était dans un désert. Il a marché 500 km.
C'est vrai ou pas? Pour couper du bois, tout à fait. Pour couper du bois, pour avoir de l'eau pour boire.
Exactement. Bon, okay. Je voulais vous parler d'autre chose parce que ça fait un an.
Ouais.
Et
ouais.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a fait autre chose. On est en train de faire autre chose depuis des mois. On n'y arrive pas.
J'ai fini ce week-end, moi.
C'est vrai?
Oui.
Bravo.
Je suis très pressé de sortir ça.
Exactement. On va sortir. On va sortir un petit bouquin auto-édité qui va être une sorte d'anthologie de toutes nos chroniques de l'année dernière, en fait.
Tout à fait. De la saison 1, en fait, d'Aline et les garçons.
Exactement. Je crois qu'on en avait peut-être un peu parlé vite fait. Mais bon, là ça s'officialise. On va vraiment le faire. Et on va vous les vendre très, très cher.
Non, tout à fait, à peu près un bras.
On va vous les faire gagner. Enfin, on va en faire gagner quelques-uns. Je sais pas combien on a imprimé. On a trouvé un truc pas mal. On va s'en faire pour nous, évidemment.
Ça fait 63 chroniques quand même.
On se fout pas de votre gueule.
Ça va être quelque chose.
Mine de rien, ça fait un bon bouquin.
Ouais, ça fait
quelque chose. Je suis sur la maquette et tout en ce moment. Il y a quand même pas mal de pages.
C'est costaud. Et du coup, vous pourrez trouver toutes vos chroniques préférées, sauf quelques-unes qu'on n'a pas pu mettre, comme celle par exemple du spécial 2019 de l'année dernière où j'avais fait une chronique dont vous êtes le héros. C'était un peu le bordel, donc on n'a pas fait.
Ou celle où on était aux Utopiales. Il n'y avait pas de chronique,
c'était plus compliqué, mais du coup il y a quand même une bonne chier dedans. Ça va être un bouquin de 400 pages ou une connerie comme
à peu près.
Et ça va être assez sympa. On va vous mettre des petits commentaires, peut-être des commentaires du réalisateur, du DOP, tout ça.
Un petit synopsis, un petit texte.
Peut-être des photos de nous,
une bibliographie
ou de nos culs, on verra. On n'a pas tranché encore, on va voir.
Pareil, ça marche.
On va voir. Et voilà, donc ça, on vous tient au courant, on avance dessus, on donne pas de date. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr d'être très très. D'ailleurs, on voulait sortir pour aujourd'hui, mais on est un peu.
On n'est pas bon pour les dates, on va pas se mentir.
Non, on est nul pour les dates, c'est vrai.
En tout cas, on va essayer de le faire très rapidement pour que l'épisode prochain ou l'épisode d'après, vous puissiez.
Absolument.
On puisse faire un petit concours pour que vous puissiez gagner un petit bouquin.
Un concours, probablement un concours d'athlétisme, on n'est pas encore
très
fixé.
Excitant.
Très excitant, on va aller vite parce qu'on a...
Et en conclusion, peut-être...
Justement, en conclusion, juste avant qu'on enchaîne avec la première chronique qui sera celle de Florian, justement.
Oui.
On va, à la fin, vous savez, on a une petite récréation, on fait des quiz, on fait des recos, on fait des choses comme ça. Cette fois, ce sera quelque chose de différent. On a reçu beaucoup de mails et de commentaires suite à une décision qu'on a prise la dernière fois. Peut-être que vous savez de quoi on parle. Il y a encore des gens qui pleurent, on a ouvert une cellule de crise.
Tout à fait.
On vous révèle pas tout de suite ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose à la fin d'un petit peu différent. Et je vous tease, donc écoutez jusqu'au bout. À tout à l'heure, sauf qu'on continue à parler. On va enchaîner tout de suite avec Florian, avec ta chronique qui est la suite de la chronique de Vic.
Patterson, chasseur de primes.
Il est 2h34 du matin, lorsqu'une étrange lumière émane de la cellule 48, bloc 2, secteur Oméga. Une lumière jaune scintillante, crépitante, qui court le long d'un câble depuis le centre de la pièce jusqu'à la serrure d'une lourde porte en titanium. Une fois dedans, la lumière disparaît et la nuit reprend ses droits, l'espace d'un instant. Un instant seulement.
Alerte à toutes les unités, alerte à toutes les unités, tentative d'évasion en cours. Je répète, tentative d'évasion en cours. Castor Lynch de Nazareth n'est plus dans sa cellule.
Attendez un peu, monsieur Patterson, revenez en arrière.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez pas compris?
J'ai besoin de plus de détails. Recommencez depuis le début.
Ok, mais je vais pas vous pondre de nouvelles informations.
Castor Lynch de Nazareth.
Castor Lynch de Nazareth. C'est le plus grand méchant de la Terre, d'Andromède et de l'univers. Le pourfendeur de monde, le faiseur de veuves, le destructeur, etc. On l'appelle aussi Lysandro Bolt Gérard Schropper, Marcel Japan Bold, Chismac Volodin II. Et ce ne sont pas des fausses identités, hein. Elles sont toutes bien à lui. Chismac, c'est Castor, et Castor, c'est Chismac. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est un métamorphe. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est un métamorphe, parce que Castor Lynch, c'était le dernier de son genre. Un métamorphe, c'est difficile à expliquer. Les humains de la Terre ont découvert cette espèce en visitant la planète Proxima Centauri B. Ils ont cherché pendant des années une forme de vie extraterrestre, et c'est sur la plus proche de leur système solaire qu'ils l'ont trouvée. Au début, ils pensaient qu'ils ne trouveraient que des formes de vie primaires, des bactéries, des virus, au mieux peut-être des larves, mais rien de plus. Et ils avaient des dizaines de raisons de penser ça. La première, c'est qu'elle était verrouillée gravitationnellement. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, il y avait une face qui était toujours exposée au soleil, tandis que l'autre était constamment plongée dans l'obscurité intersidérale. Soit il faisait moins 50 degrés, soit il faisait 200 degrés. Pas facile de survivre à ça. La deuxième, c'est qu'elle était frappée par une quantité phénoménale de rayons X et ultraviolets, presque 400 fois plus que sur Terre. Pour ça qu'ils s'y sont pas intéressés directement. Mais quand ils ont envoyé une sonde spatiale à l'un des pôles de Proxima B, elle a été accueillie par des dizaines de sphères visqueuses, rougeâtres et rayonnantes. Et les premières analyses ont révélé qu'ils étaient plus d'un million d'individus dans un périmètre de 100 km autour du pôle nord de la planète. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe au tritium. Les gens étaient comme des dingues, mais il y avait deux camps. Ceux qui voulaient absolument aller voir ça de plus près, et ceux qui voulaient surtout pas interférer dans la vie de cette espèce. Devinez qui a gagné. Putain, on n'apprend pas de nos erreurs, hein. Quelques années plus tard, Aurora Spatial Engineering a envoyé une expédition habitée sur Proxima B, afin d'observer et d'analyser cette nouvelle forme de vie. Ils ont dit que c'était une sorte de blob, comme de ceux qu'on pouvait croiser sur Terre. Mais grâce à l'exposition permanente des rayons X, ils ont évolué vers une forme de vie intelligente. Ils bougeaient, ils réagissaient, ils pouvaient même reconnaître des sons basiques et faire vibrer leur corps à la même fréquence, afin de les reproduire presque parfaitement. Un jour, il y a l'équipage qui se réveillait. Ils ont fait le décompte des blobs, comme tous les jours, mais un blob manquait à l'appel. Alors ils ont lancé un des sons que les blobs aimaient le plus. Tous se sont mis à faire vibrer leurs petits corps de blob et à siffler les mêmes notes. Une véritable chorale alien. Puis, ils ont tendu l'oreille pour voir où pouvait bien se cacher ce dernier blob. Eh bien, figurez-vous qu'un des ordinateurs de l'équipage sifflait. Plus surprenant, c'était un ordinateur qui avait exactement le même numéro de série qu'un autre ordi de l'expédition. Sa copie, parfaite, à la rayure près. Sauf qu'il ne s'allumait pas et que lorsqu'on appuyait sur un bouton, l'ordinateur émettait un léger sifflement. C'était le blob, qui s'était métamorphosé en ordinateur. Une découverte de dingue, on n'avait jamais vu ça. Après plusieurs tests, ils ont découvert que le blob pouvait se transformer en bien plus qu'un simple ordinateur. Certains individus prenaient petit à petit l'apparence d'un être humain. D'abord les cheveux, puis les yeux, puis les bras. En quelques semaines, la petite bande de blob avait déjà pris la forme de l'équipage et chaque membre avait un ou plusieurs jumeaux parfaitement identiques. À ceci près qu'ils n'avaient pas la parole au début. Ils sifflaient et c'est tout. Au début, parce que les sifflements sont devenus de plus en plus complexes avec le temps, puis ils se sont transformés en mots, puis en phrases. En l'espace de quelques années, et grâce aux allers-retours répétés des terriens sur Proxima B, ils sont devenus de plus en plus intelligents et nombreux, ces métamorphes. Chacun avait sa véritable personnalité, forgée par le temps et l'expérience. Mais vous voyez, les terriens, ils voulaient coloniser la planète. Ils se disaient que les métamorphes pouvaient être une main-d'œuvre facile et docile. Et les métamorphes, eux, se développaient à vitesse grand V grâce à la technologie des terriens. Gagnant-gagnant, quoi. Ils ont vécu en harmonie comme ça pendant pas mal d'années. Et la population de Proxima B a grossi énormément. Presque 10 millions de métamorphes. Jusqu'au jour où... Enfin, vous vous rappelez aussi bien que moi. J'étais petit quand j'ai vu ça. Les métamorphes, ils ont botté le cul des humains et ils ont demandé leur indépendance. Ils ont été reconnus par l'Organisation des Planètes Unies comme véritables nations. Puis à partir de là, ça a commencé à merder. Ils ont cherché à s'étendre et ils sont rentrés en conflit avec un paquet de gens, notamment avec les grosses têtes d'Andromède. Mais franchement, je pensais pas que les Andromédiens, ils en arriveraient à là. Balancer une type C dans le cœur de Proxima B, c'était un peu violent. La planète s'est littéralement disloquée dans le vide intersidéral, pour ensuite se faire engloutir par son soleil. Après ça, il restait plus qu'une poignée de métamorphes dans toute la galaxie. Une centaine, tout au plus. Les Andromédiens, ils les ont tous retrouvés, et ils les ont tous butés, un à un. Tous, sauf de Nazareth. L'autre tueur à gages, il s'est complètement gouré. Il a tué la directrice de l'orphelinat où était placé Castor. Mais le problème, c'est que Castor, il l'aimait cette gonzesse. Et à partir de là, Métamorph, il a pété un plomb. Il s'est mis à la recherche de ce mec, et il a tout fait pour le tuer. Il a dézingué des dizaines, voire des centaines de personnes, pour retrouver le foutu Andromédien qui avait tué l'amour de sa vie. Il s'est transformé en plus de 1000 identités différentes à ce qu'on dit. Et il a commencé à se dégénérer. il a fini par perdre la sienne d'identité. À chaque fois qu'il absorbait le code génétique de sa proie pour se transformer, il prenait un bout de sa mémoire, et à force, il ne savait plus quels souvenirs étaient les siens et lesquels appartenaient aux gens qu'il avait tués. On l'a retrouvé complètement paumé dans son ancien orphelinat en ruine. Il était dans le corps d'un mec un peu stupide. Simple Task, je crois. Ouais, Simple Task Junior 3, je m'en rappelle maintenant. Il y avait son nom partout dans les journaux quand ils ont fait son procès. Après ça, ils l'ont foutu dans la prison planète de Bassan, celle qui est en bordure extérieure de la galaxie. Sans étoiles, sans lumière, toute seule dans le néant de l'espace, et sans aucun moyen de s'échapper. Perpète qu'il a pris. Et c'est long pour un métamorphe. Pareil qu'ils sont immortels. Enfin, c'est ce qu'on dit, parce que personne n'en a vu mourir de cause naturelle. Eh bien, même de là, il s'est enfui le salaud.
Ok, monsieur Patterson, je comprends mieux l'affaire maintenant. Et comment vous avez fait pour le retrouver, une fois qu'il s'est échappé de Bassan ?
Alors, c'est simple. J'ai vu qu'il y avait une grosse prime sur sa gueule à l'autre castor. Et je me suis dit que j'allais le chercher. Pourquoi pas, après tout ? J'ai pas pu bébête qu'un autre. J'ai ma chance, moi aussi. Et puis, 1 million de crédits, c'est quand même pas rien. Du coup, je me suis demandé où est-ce qu'il pouvait bien se cacher ? Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir ? Je me suis mis dans sa tête, quoi. Et vous voyez, je me suis dit, moi, si j'étais lui, bah je serais allé sur Andromède pour chercher celui qui a tué mon amoureuse. J'ai passé des mois à récupérer des informations, des petits trucs, mais qui me rapprochaient à chaque fois un peu plus de Castor. Puis un jour, j'étais dans un bar, et j'ai entendu un mec dire qu'il avait dragué une fille et qu'il l'avait emmenée chez lui. Le lendemain, la gonzesse s'était barrée sans rien dire, et avait piqué un costume. C'était pas grand chose, mais je me suis dit que si un métamorphe avait pris la forme d'un type, il avait besoin de se changer parce qu'un mec en robe, sur Andromède, on voit pas ça partout. Je lui ai payé un coup, puis je lui ai demandé où il l'avait trouvée cette fille. Quel bar ! J'y suis allé dans la foulée, et j'ai zioté un peu le beau monde qui était là. Et devinez quoi ? Bah y avait le même type, trait pour trait, mais avec un autre costume. Alors je me suis dit, c'est forcément lui. Quand il est parti, je l'ai suivi, une heure environ je dirais. Puis il est rentré dans une espèce de vieux bâtiment désaffecté. Comme un entrepôt ou une blanchisserie, je saurais pas trop dire. Je me suis caché et je suis rentré dedans moi aussi. J'ai avancé comme ça pendant un petit bout de temps dans le noir. Il n'y avait pas une seule lumière. Je me cognais contre des grosses caisses, je passais à travers des bâches en plastique. Puis à un moment donné, j'ai vu une porte éclairée au bout d'une grande pièce. Je me suis faufilé en marchant sur la pointe des pieds. Puis j'ai regardé dans l'entrebâillement de la porte, il n'y avait personne. Juste des portraits sur des murs, des plans de bâtiments, des articles de presse et des cordelettes rouges qui passaient au milieu de tout ça, en s'entremêlant. Je me suis dit, il n'y a pas à chier, il a le sens du spectacle celui-là, à l'ancienne qu'il nous l'a fait. Puis c'est la dernière chose que je me suis dit. Paf, derrière la tête, un coup sec, une barre en fer sans doute ou une chaise. Mais il en faut plus pour faire tomber le chasseur de primes Patterson. Je me suis relevé sec, j'ai vu le type avec son costume, le même que dans le bar, j'ai pas réfléchi. Je lui ai mis une droite, sévère, dans sa gueule, directement, puis un uppercut, une gauche, une droite. Le mec, il bronchait pas. Il a sauté dans les airs. J'avais jamais vu ça. Il m'a retourné un coup de pied circulaire. Je me suis retrouvé sur le cul. Il était fier de lui. Il m'a regardé, puis il a rigolé. J'en ai profité pour prendre mon Elon 75, un pistolet laser 6 coups. Il a fait la guerre, celui-là, vous savez. J'ai visé direct, entre les deux yeux. J'ai tiré. Et voilà, plus de Castor.
C'est tout ?
Quoi, c'est tout ? C'est déjà pas mal. Tout le monde le cherche depuis un an, je vous l'amène raide sur un plateau d'argent. Alors maintenant, je veux ma prime. C'était marqué mort ou vif. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
Non, non, c'est très bien, c'est juste... c'est presque trop simple. Mais d'accord. Merci pour votre collaboration, monsieur Patterson. Je vous amène votre chèque dans un instant. Juste une question. C'est lui qui vous a fait ça ?
Ça ? Non, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Un chien qui m'a bouffé 3 doigts de la main droite. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, je m'en rappelle pas vraiment.
Et c'est tout !
Et c'est tout.
On l'avait grillé, le castor.
Et c'est tout. Donc là, il faut expliquer aux auditeurs que le qui n'ont pas eu la chance d'écouter la chronique, la fin, je pense.
Bah la fin.
Donc, on n'est pas obligé, sinon on peut juste leur dire tant pis.
Non, si, si. Mais...
non, la fin de l'épisode 18, du coup, c'est Castor Lynch Nazareth qui s'était transformé en Simple Task Junior 3, qui s'est fait envoyer en prison, donc, sur la planète Bassan, la planète prison de Bassan.
Alors, au passage, avant que tu continues, j'aime bien l'idée d'avoir une planète prison. Bon, alors ça, c'est assez classique, mais j'aime bien avoir l'idée d'une planète prison dans un système où il n'y a pas d'étoiles.
Ouais, mais j'aime bien.
Paumée comme
ouais,
ça. Bon, voilà, c'est tout.
Bon, merci
petit
beaucoup.
Détail, ouais.
Et du coup, là, ça traite de son évasion et d'un chasseur de primes qui le poursuit.
Patterson.
Patterson. Et donc, du coup, à la fin.
On se rend compte
que Patterson, c'est donc notre métamorphe, c'est Castor Lynch de Nazareth.
Et comment on se rend compte? On se rend compte parce qu'il avait que trois doigts.
Exactement, il a que trois doigts sur la main droite.
Ce qui est encore plus drôle, du coup, c'est que vu qu'en fait, Castor Lynch de Nazareth, il se laisse un peu prendre l'esprit par la métamorphose qu'il a, il n'est pas conscient vraiment d'être lui-même. Il y croit vraiment, lui d'être le.
Bah, bien sûr, très certainement.
D'être le chasseur de primes, finalement. Exactement. C'est le chasseur de primes, ouais, c'est ça?
Bah, le chasseur de primes, Patterson.
Il croit vraiment, donc il vient témoigner contre lui, ça, c'est rigolo. Un peu comme finalement tu avais fait dans ta chronique, Vic.
Ouais, c'est ça. J'essaie de faire la suite, mais différemment, ouais. Avec un peu la même procédé d'écriture, mais quand même.
Je l'ai repéré quand tu dis bébête.
Exactement, j'ai fait exprès de le placer exactement pour toi.
Parce que je me suis dit que c'est là où tu. Qu'il dit souvent bébête.
Il dit qu'il est dans ta chronique, il dit souvent bébête, ouais. Et du coup, je me suis dit que c'était l'indice qui allait te faire tilt.
Ouais. Et c'est drôle parce que à la fin de ta chronique, Vic, quand tu l'avais fait la première fois, j'avais mal à la tête. Ouais. Bah là aussi. Donc c'est que c'est plutôt bien, plutôt réussi, je pense.
Ouais, je suis plutôt content parce qu'effectivement, c'était pas facile d'écrire sur ça, mais j'aimais bien parce qu'il y avait pas mal de. Je suis allé moins dans la profusion d'identité. Je me suis un peu focus sur son évasion et sur.
Non, c'est bien, c'est mieux.
Sur sa perte d'identité.
Ouais, c'est rigolo.
Moi, j'ai deux remarques.
Ouais.
La première, c'est que le pistol Elon 75. Il est pas très impressionnant, un petit peu comme le sound design du pistolet dans la dernière, dans l'épisode.
C'est
22.
Drôle parce qu'il y en avait un du début du 20e siècle qui était pas très impressionnant. Là, on est dans le turfu.
Alors le truc, attends, quand même, c'est quand même ça, c'est pas un petit.
Ouais. On le boostera en post-prod. C'est un bout de pistolet laser de Star Wars.
D'accord.
C'est le même pistolet laser de Obi-Wan.
Il y a un youtubeur qui s'appelle SF Theory, qui est super bien. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Il parle de plein de choses et il a notamment parlé des sons dans Star Wars.
Ah, c'est rigolo.
Et du coup, ça là, ce qu'on entend, c'est donc le gars qui s'occupait du son, dont j'ai oublié le nom, qui tape sur une corde tendue en fer.
Ah.
Oui, quand tu l'imagines, tu comprends.
Ah, j'avoue.
Vous voyez ce que ça fait?
Mais c'est là aussi la limite, surtout avec nos moyens du podcast, c'est que quand un son comme ça est soutenu par l'image, ça passe.
Bien sûr.
Ouais. Et quand tu l'entends comme ça sans image, tu vois quasi le mec, enfin tu le vois pas taper sur une corde, tu t'en sais rien, mais tu vois le côté un peu cheap.
Et tu peux comprendre.
C'est comme j'essaie toujours de trouver des sound design de téléphone qui se décroche, tu sais ce qu'on a l'habitude dans les films de voir le mec qui décroche le téléphone et ça fait un bruit assez caractéristique.
Ouais, bien sûr.
Tous les sound design de téléphone qui se décrochent, c'est toujours des vieux trucs,
c'est toujours nul.
Une seconde sur YouTube.
T'es en train de nous teaser un peu sur ta chronique à venir.
Alors, c'était pas la première fois que j'en recherchais.
Mais c'est deuxième remarque.
Ouais, deuxième remarque. Putain, on arrive presque à suivre un fil conducteur, on s'améliore. Vas-y.
Deuxième remarque, c'est pas grave du tout, mais dans ma tête en tout cas, mais après ça appartient à tout le monde maintenant.
Martha Amour de Boise.
Autant à toi. Alors oui, Martha Amour de Boise, c'était pas sa copine, mais c'était un peu sa maman, mais ça peu importe.
Ça peut rester son amoureuse.
Ça peut rester un peu son amoureuse.
Ça peut être un truc dégueulasse avec sa mère.
Mais c'est surtout que pour moi, Castor Lynch de Nazareth, c'est la deuxième identité du mec. En fait,
la première,
qui s'est transformé dans le simplet qui est Jonathan Simpletas, c'est qu'en fait, la première personnalité, donc finalement, le nom qu'on devrait donner. C'est Jonathan Simpletask. Simpletask. Mais c'est un détail.
Mais du coup, Castor Lynch de Nazareth, c'était un peu le nom de l'épisode et
oui,
tout.
C'était
plus simple. Mais voilà, quoi.
Moi aussi, j'ai une remarque et après, ça sera tout. Pour moi, je n'ai qu'une. Florian, donc on devait écrire la suite et t'as surtout écrit avant. Donc pour moi, c'est refusé comme chronique.
Non, non, parce que c'est vrai que
tu racontes toute l'histoire.
Tu réécris.
J'ai réécouté l'épisode pour écrire cette chronique et c'est vrai que je me rappelle très bien. J'avais plein de questions sur les métamorphes parce que je voulais savoir comment ça avait existé, etc. Et tout. Je trouvais ça très cool de
du coup,
de
tu sais, auto-répondu à tes questions.
Que c'est pas
exactement.
Vrai, tu sais que c'est pas vrai.
Non, non, mais c'est toujours cool de se poser des questions après dans la partie débat. Et j'en avais plein justement sur comment l'origine des métamorphes. Et du coup, j'ai répondu à cette question et j'ai fait avant et après.
D'accord,
donc j'ai fait double sujet. Oui, donc je suis pas hors sujet. Okay.
Non, ça va. C'est
merci.
Bon. C'est bon, on l'accepte. J'ai changé d'avis. Oh là là, putain, il est soupolé.
Ouais, merci.
Moi, j'avais pas d'autres remarques. Je suis vraiment content. C'était très bien. On a une belle ouverture. Et pour les gens qui
un peu longue.
Un peu longue, mais ça va. On a l'habitude. On a Vic qui fait deux fois plus long en général.
C'est vrai.
Non, pour les gens qui voudraient écouter, donc quel épisode c'était?
18.
Épisode 18, ouais. Castor Lynch de Nazareth, à réécouter avec votre famille.
Sur toutes les plateformes de podcasting. Ouais.
Exactement. Est-ce qu'on passe à la suite?
Ta chronique. Donc,
ma chronique.
Donc, petit rappel en une phrase.
Alors, je me suis inspiré d'une chronique de Florian de l'épisode 15, Mémoire, où il décrivait le fait qu'il cherchait dans son palais mémoriel, c'est-à-dire une sorte de manière de visualiser ses pensées pour pouvoir mieux les retenir. Et il se balade dedans, en fait, comme si c'était vraiment quelque chose de physique, mais sauf que c'était dans sa tête. Et moi, j'ai écrit la suite de ça.
Okay.
Parce qu'à la fin, juste pour préciser, il cherchait juste le code de la porte pour aller chez un ami.
Donc la suite de ça, c'est qu'on se bourre la gueule.
Yes.
C'est ça.
Yes, gros, on se bourre la gueule. Allez, pourquoi je fais des voix cheloues depuis le début de...
Ouais, c'est étonnant.
Allez, on enchaîne.
Allez.
Une vie au palais de la mémoire.
Les années ont filé, et ma vie n'est plus le torrent turbulent qu'elle pouvait être. Elle est plutôt devenue un lac placide que plus rien ne vient troubler. Je vis maintenant en veuve solitaire, Ma fille semble trop occupée pour me rendre visite et je ne la vois guère que pendant les fêtes de fin d'année. La plupart de mes amis sont morts et j'ai perdu contact avec les autres. D'ailleurs, peut-être sont-ils morts eux aussi. J'arrive au crépuscule de mes jours et j'ai bien conscience que ma vie est derrière moi. À la disparition de ma femme, j'ai quitté la ville pour retourner loger dans les Alpes, là où j'ai vu le jour, parmi les montagnes millénaires. Mes journées se résument à quelques gestes quotidiens et à des marches dans les vallées. Le temps passe lentement, il s'élargit chaque jour un peu plus. Chaque nouvelle matinée annonce une journée plus longue que la précédente. Je vis au ralenti. On dit que la vieillesse est un naufrage. Je crois qu'elle est une longue traversée en solitaire d'un océan aux eaux opaques et figées. Et cet océan est infini. Jamais plus la Terre ne réapparaîtra au loin. J'ai pris l'habitude de fréquenter plus régulièrement mon palais, celui où je garde mes souvenirs, les souvenirs de ma jeunesse et ceux de toute ma vie. J'y passe mes journées, parmi mes souvenirs, loin de ma réalité présente monotone. C'est là-bas que se trouve ma vie et c'est là-bas que je me sens vivant. J'y rencontre mes amis, tous les amis que j'ai pu avoir, depuis l'école maternelle jusqu'aux rares rencontres tardives que j'avais pu faire. Je les revois s'amuser, rire, voyager, rêver. Mais plus important, je me revois parmi eux. Nous ne sommes plus jamais seuls. En revoyant ces dizaines de visages, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment nos chemins ont pu se séparer, souvent sans même que l'on ne s'en rende compte. Il y a aussi ma famille, ma fille, mes bébés. Je peux les voir grandir à nouveau. Je me revois les guider dans ce monde nouveau et effrayant jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes et que les trajectoires de nos vies se séparent petit à petit. Il y a aussi bien sûr ma femme. Elle est si belle. Nous sommes si beaux. J'ai dans ma mémoire la plus grande partie de sa vie, jusqu'à la maladie et jusqu'à ce qu'elle ne disparaisse. Et puis il y a tous les autres, les professeurs de mon enfance, mes collègues, les femmes que j'ai connues. Des milliers de souvenirs différents habitent le palais. En marchant dans les couloirs, je repasse devant les décisions que j'ai pu prendre, les douleurs et les joies, les grands événements. Est-ce que ce nouvel an sera le dernier que je verrai ? Je retrouve aussi des passages de mes livres préférés que je n'ouvrirai plus pour la plupart. On ne sait jamais lorsque l'on ferme son livre préféré pour la dernière fois. Le guide qui m'accompagnait dans mes balades mentales à travers le palais a disparu. Ce n'est pas grave, je n'ai jamais vraiment supporté son caractère difficile. Toutefois, sans lui, j'ai tendance à me perdre dans les couloirs et à mélanger mes souvenirs. Sans lui, la galerie des presque inconnus m'est devenue inutile. Tous ces visages ne me disent plus rien, ils ne sont plus triés selon aucun ordre logique. Et je crois que j'en ai même égaré une grande partie. À force de visiter le palais, j'ai réalisé qu'un problème était survenu. C'est dans la galerie des portraits que cela m'a sauté aux yeux. Certains portraits ont tout simplement disparu. Me revient alors à l'esprit ces affaires de hack de palais mental qui avaient eu lieu il y a bien longtemps. Et la situation ne s'améliore pas. À chaque nouvelle visite dans le palais, je découvre avec effroi des souvenirs manquants, d'autres déplacés. Aucune salle ne semble être épargnée par ce mal mystérieux. Ce n'est pas la mort qui me rattrape, c'est l'oubli. Mais quelle différence ! Impuissant, je continue mes balades quotidiennes dans ce palais désormais incomplet. Jour après jour, je constate la disparition des portraits jusqu'à ce que ces murs retrouvent leur nudité originelle. Y a-t-il un extérieur au palais ? Ai-je toujours vécu dans ce lieu austère ? Je ne saurais le dire. Tout n'est plus que blancheur et éclat diffus. Je me perds dans ces couloirs. Je ne retrouve plus mon chemin dans ces pièces pleines à craquer de néant. Plus rien n'existe. Ni mes souvenirs, ni moi-même. Ni le temps qui semble s'être pétrifié pour toujours. Depuis combien de temps suis-je ici ? Tout semble être allé si vite. 1000 ans pourraient passer, une éternité résumée dans un battement de cils, quand mon chemin me mène sur celui des mémoriseurs. Ces petites créatures chargées d'accrocher les tableaux mémoriels. Sont-ils au travail ? Oui. Ils accrochent de petites photos dans un couloir sans importance. Ces photos s'effacent aussi vite, elles fanent. Je m'approche pour voir de quoi il s'agit. Une femme au visage fermé, une cantine austère, des couloirs pâles, d'autres regards préoccupés, mais déjà, les photos s'émiettent. Les mémoriseurs se figent, tout sauf moi. Je ne sais plus qu'une seule chose, jamais plus rien n'entrera ici.
Claque.
J'aime bien les sound design comme ça à la fin des chroniques.
Celui-là, il est efficace. Fermeture du palais mental. Mort de Florian hypothétique.
Ah oui, alors du coup. Ouais.
Donc c'est effectivement pas vraiment un an plus tard.
Non.
C'est plutôt. Après, c'est pas.
C'est vrai que maintenant que. Tu peux baisser un chouille. Maintenant que je me rends compte que c'était toi, j'aurais peut-être pas dû écrire ça.
Non, c'est vrai que c'est ma première remarque. Mais c'est pas complètement autobiographique parce que je suis pas vraiment né dans les Alpes.
Ah, mais c'est ce que tu avais écrit à l'origine, hein, les Alpes.
Bah, c'était pas complètement autobiographique ce que j'avais écrit. Mais je comprends tout à fait.
Tu prends un nègre.
je comprends tout à fait que tu aies choisi cette chronique parce qu'elle a un côté encore plus exacerbé quand tu l'as réécrit. En tout cas, quand tu écris la suite.
Ouais.
Un côté assez poétique, assez.
Alors, du coup, il est pas mort, hein. Il a Alzheimer.
Ouais. Oui,
j'ai jamais lâché le mot parce que voilà, c'est pas la peine, mais Mais du coup, ce qui est encore plus touchant, je trouve.
Bien sûr.
Parce que mourir, ça arrive à tout le monde, facile. Alzheimer, ouais. C'est...
Non, mais à la fois, ça pouvait marcher aussi pour juste la vieillesse tout court, parce que c'est vrai que ce que j'aimais bien dans le palais mental, c'est que c'est des mémoires que toi, tu accroches, entre guillemets, virtuellement, tu vois. Quoi. Et donc, du coup, ces mémoires, ils peuvent s'effacer au fur et à mesure que tu oublies les choses, quoi.
Exactement. Et oui, alors c'est ça, puis surtout, t'as plein de choses. Et je me dis que quand t'es vieux, enfin, quand tu vois comment c'est un peu deep, hein, mais quand tu vois comment les vieux sont traités en France, ou tout ça. Et qui on les laisse tout seuls souvent, et les mecs pendant les canicules, personne ne vient leur donner des croquettes. Ouais.
Mais du coup, j'aimais bien l'idée d'effacer tout de suite les souvenirs très récents, là. C'est les souvenirs des infirmières, des couloirs de l'hôpital, etc.
C'est exactement ça.
Ouais. Mais il garde ses souvenirs de jeunesse, vraiment ?
Non, justement, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de la construire en deux parties. La première partie, donc, il vit dans ses souvenirs parce qu'il est seul, ce qui permet de remettre l'idée du palais au passage. Deuxième partie, ça commence à disparaître. Et en fait, à la fin, il n'y a plus rien du tout. Et je pense que cette partie-là où il n'y a plus rien, c'est le moment où Alzheimer vous savez, la maladie, comment ça se passe. Les gens oublient, mais ils sont encore là. Et au bout d'un moment, en fait, ils sont plus du tout là. Ils n'ont plus leur tête. Ils sont devenus absents complètement. Ouais. Et on peut dire que c'est un peu ce moment-là. D'ailleurs, j'ai essayé de faire ressentir ça en disant, est-ce qu'il y a eu un monde avant le palais, comme s'il était coincé dedans, en fait. Il vit dans un univers blanc pur.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, il est pur. Il s'est même pas rendu compte qu'il était à l'hôpital et qu'il était plus dans les Alpes, quoi. Ouais. Donc voilà.
Et juste les mémoriseurs, c'est nouveau ça.
Non, les mémoriseurs, ça existait déjà avant aussi. C'est effectivement les petites créatures qui accrochaient les souvenirs en fait,
qui triaient
les souvenirs et qui les accrochaient au mur en fait quoi.
Et du coup, je les ai remis à la
fin. J'aime bien l'idée.
Pour se dire que pour pouvoir. Au début, j'avais
des architectes.
Ouais,
des décorateurs d'intérieur.
Mais dit comme ça, ça fait moins.
Architecte d'intérieur, ça va.
Ok, on va dire architecte d'intérieur. Et au début, je voulais révéler le truc en disant ok, en fait, il arrive, il voit un médecin et machin et tout, mais je trouve que c'était déjà suffisamment obvious. On comprend assez vite que le mec est en train de perdre la mémoire, parce que c'est un peu le sujet, donc c'était pas la peine de. Voilà, je préférais terminer.
Et ma deuxième réflexion, c'est du coup, j'ai l'impression que t'en sais beaucoup plus que moi sur mon avenir. Donc il va falloir qu'on discute un petit peu ensemble, Thomas.
Surtout, fais gaffe à ta fille, parce que c'est une sacrée connasse, elle vient plus te voir du tout.
Mais ça, je lui en veux pas.
Parce que je me souviens plus d'elle.
C'est ça, exactement. Donc c'est pas si grave, tu vois.
Du coup, je te ferai passer les détails.
Ouais, ça marche.
Il y a des trucs pas jojo.
Genre ma femme et tout, j'aime bien que tu me dises laquelle c'est, tu vois. En amont, comme ça au moins, tu vois. Je perds pas de temps, quoi.
Elle est portoricaine, enfin je te.
Ah, j'ai pas encore rencontré.
Non, tu sais, tu vas la trouver sur un catalogue.
Ah, très bien, cool, parfait.
Très bien.
J'ai lu sur internet un mec qui a fait un test sur le site d'Uzbek Erika. Qu'un des journalistes avait fait un test d'ADN. Tu sais, les tests où tu envoies un peu de salive parce que c'est interdit en France, mais alors il le fait, donc ça coûte 100, 150 euros.
Oui, mais tu peux le faire et l'envoyer aux États-Unis.
Voilà, c'est un petit article où il décrit ça et il décrit que donc, quand il a les résultats, tu as plus de 100 ou 200 paramètres qui te disent alors attention à votre cholestérol parce que vous auriez plutôt tendance à en avoir pas mal. Et le mec avait notamment un fort risque d'obésité. Donc ça a un peu déprimé le journaliste
en question. Mais il s'en sortait pas mal.
Voilà, toi, tu as un fort risque d'avoir Alzheimer.
Désolé.
D'accord, très bien.
Désolé.
Thomas, ça va,
test sur ADN.
Mais après, t'as Alzheimer dans ta famille ?
Non.
Bon, ça va, allez, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et du coup, à l'écriture, je me suis pas rendu compte que ça allait être aussi. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer ou on arrête là ? Alors, vous entendez peut-être des bruits depuis tout à l'heure ?
C'est le dragon du.
C'est le dragon du château qui secoue ses poils.
On a accueilli un nouveau dragon en château et c'est vrai qu'il est un peu bruyant.
Et puis il est un peu humide aussi, donc il se secoue un petit peu, mais il va pas rester, vous inquiétez pas.
Il sent un peu le dragon.
On va l'amener au chenil, hein, dragon, t'entends ? Bref, excusez-moi.
Et allez, on va avoir des problèmes avec la SPA maintenant.
Non, ça va.
En même temps, est-ce que la SPA accueille des dragons ? Je ne suis pas sûr.
Non, je pense pas, il n'y a pas de dragon. Bref, est-ce que. On continue ?
On continue,
on va passer à la dernière chronique qui est celle de Vic.
Ouais.
Tu nous fais un petit topo ou pas ?
Petit topo, c'était sur ta chronique des songeurs qui sont des anciennes personnalités penseurs français qui réfléchissaient pour prendre les décisions pour la France.
Exactement.
Des clones.
Très bien.
On continue.
J'aime bien ce mot topo.
La délocalisation de Voltaire.
Tu reconnais ?
Parce que là, rien n'a changé.
L'obscurité est fragile, cette nuit à Paris, et menacée à chaque coin de rue par l'éclairage municipal. Il est presque 5 heures du matin, et il faut se hâter, car les premières lueurs du jour guettent à l'horizon. Dans la cour du palais de l'Élysée, fantomatique et suffisant, le moteur d'un camion sombre démarre dans un vrombissement feutré. Quelques ombres finissent de s'affairer autour du véhicule, puis chargent une dernière caisse. Les ombres referment alors le haillon du camion dans un claquement sourd qui résonne dans la nuit. Un homme frappe 3 coups discrets sur la portière. C'est le signal. les roues commencent à tourner lentement sur le gravier de l'Élysée. Depuis la fenêtre de son bureau, M. Sorrente, responsable de la sécurité des songeurs de la Nouvelle République française, observe d'un œil soucieux le camion en train de sortir de la cour du palais. Alors qu'il disparaît dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, M. Sorrente retient son souffle. Une heure plus tard, deux berlines sombres entourent maintenant le camion. Le convoi roule sur la départementale 11, au niveau de Fontenay-le-Fleury, juste après Versailles. Il est 5h51 du matin lorsque le convoi s'arrête dans un crissement de pneus stridents. Au milieu de la route, elle-même au cœur d'une forêt des Yvelines, un cerf se tient, majestueux. Le chauffeur de la berline de tête klaxonne et fait vrombir son moteur pour écarter l'animal. Rien n'y fait, le cerf ne vacille pas. Le passager de la berline de tête, un homme en noir, descend et s'approche de l'animal en vociférant. La main posée sur son arme de service, il est tendu. Il est 5h53 quand l'homme en noir est suffisamment proche du cerf pour distinguer une grande cicatrice sur son flanc. En y regardant de plus près, Diego, c'est comme ça que l'on appelle l'homme en noir, découvre une protubérance anormale à l'intérieur même du cerf et au niveau de la cicatrice qui, vue de près, semble fraîche. Diego fait un nouveau pas en avant et c'est à cet instant qu'il entend le claquement. Il l'identifie de suite comme étant celui d'une charge d'amorçage d'un engin explosif de catégorie 4. C'est une embuscade. Diego se retourne et commence à hurler lorsque le cerf de catégorie 4 explose à quelques mètres de lui. La détonation déchire la nuit et c'est une fumée épaisse qui est projetée dans toutes les directions. Diego est à terre, endormi sur le coup, profondément. Avec lui, les hommes en noir de la berline de tête, qui avaient la porte ouverte, sont eux aussi endormis par la fumée du cerf piégé. C'est alors que d'autres hommes en noir, encore plus noirs que les hommes en noir des berlines, sortent des sous-bois et nourrissent un feu croisé et soutenu sur la berline de queue. Un feu fait de billes de peinture noires et opaques. La seconde voiture est recouverte en quelques secondes et à l'intérieur de celle-ci, les passagers n'ont pas le temps de dégainer leurs armes que déjà, deux véhicules se garent de part et d'autre de leur berline, les empêchant de sortir pour riposter. Il est tout juste 5h53 lorsque le conducteur du camion sort de sa léthargie et enfonce la pédale d'accélérateur. Il s'appelle Marc Vasquez et à cet instant, l'adrénaline le guide pour s'en sortir. Mais malheureusement pour M. Vasquez, l'adrénaline ne peut pas faire grand-chose face à une roquette tactique sol-sol de RPG. 2,2 kg, calibre de 85 mm, pénétration de blindage de 260 mm avec charge creuse anti-char. Une poignée de secondes plus tard et le camion est retourné par la puissance de la roquette. Marc Vasquez est assommé dans l'explosion. Il est toujours 5h53 lorsque le calme retombe sur la forêt francilienne. Le groupe d'assaillants se met au travail. 16 minutes plus tard, l'ensemble des caisses du camion numéro 1 a été transféré dans le camion numéro 2. Un peu plus tard, dans la matinée, la sonnerie du téléphone de M. Sorrente retentit. M. Sorrente décroche. Allô ?
Mon nom est Alexandre Marius Jacob II, mais vous pouvez simplement m'appeler Marius Jacob II. J'ai avec moi une bande d'honnêtes illégalistes, avec lesquels je travaille durement chaque nuit dans le but de rendre à la France et aux Français les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qu'on leur promet depuis leur plus tendre enfance. Au titre de l'égalité, nous voulons les plus riches par exemple, simple question mathématique. À celui de la fraternité, nous luttons contre les lois que vous proclamez pour désunir les Français. Et enfin, au titre de la liberté, nous la rendons à tous ceux qui en expriment le besoin. Et c'est dans ce cadre que cette nuit, nous avons rendu leur liberté à vos prétendus songeurs. Napoléon Bonaparte, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Auguste Comte, Marie Curie, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire voguent à présent vers une nouvelle retraite bien méritée. Je suis au regret de vous annoncer que votre nouvelle république n'est plus. Votre panthéon vivant, fait de clones à peine vivants, ne brillera plus de ses décisions inflexibles et sans appel. Votre élite du passé ne décidera plus du futur du peuple. Les songeurs ne songeront plus pour les autres, mais pour eux-mêmes dorénavant. Et ainsi nous, les autres, le peuple, pourrons nous remettre à penser pour nous-mêmes. Nous vous laissons annoncer la bonne nouvelle dans vos médias. Vous n'aurez qu'à dire que vous avez dû suivre les consignes des songeurs eux-mêmes en les délocalisant de votre majestueux palais, ou toute autre excuse que nous vous laissons trouver. Quant à vous, cher responsable de la Nouvelle République, il va vous falloir bien de l'énergie et de l'astuce pour rester au pouvoir d'une France qui dorénavant n'aura sans doute plus vraiment besoin de vous. Nos amitiés à votre gouvernement, Marius Jacob II. Nota bene, vos hommes ont été laissés au niveau du kilomètre 24 de la départementale 11, ils sont en bonne santé, ils ont simplement été étourdis, réveillés, puis attachés. Mais pas abîmés, peut-être légèrement égratignés. Vous trouverez 2 litres de rosée près du camion pour les remettre d'aplomb à votre santé.
Monsieur Sorrente repose le téléphone et s'assoit sur sa chaise. Il regarde droit devant lui, vers nulle part, sans les songeurs pour la guider, que va devenir la Nouvelle République Française.
Hey, ça swing!
Et ça...
Allez! Salut, beauté!
Alors, j'ai d'emblée une remarque. J'aime beaucoup les gens qui, au téléphone, font des nota bene. Ouais, la prochaine fois, je ferai ça. La prochaine fois que j'appellerai l'un de vous, je ferai nota bene. Je fais un nota bene.
Mais surtout, tu laisses pas placer le gars. C'est un message. Ah non, il décroche et ouais, l'autre, il fait bonjour, je suis machin. Et je voulais vous dire que.
Et je vais vous faire un monologue de 5 minutes. À la fin, je vous ferai un nota bene. Nota bene.
C'est pas mal. Alors, on a kidnappé un songeur?
On a kidnappé tout le camion de tous les songeurs.
Ah, je crois qu'il y en avait qu'un qui il allait répéter le processus, j'avais pas compris. Putain, c'est pas mal. Hein. Je me suis dit. Moi, je me suis dit, alors, au début, donc, kidnapping, je me suis dit, est-ce que c'est ça va être une guerre entre les États? Est-ce que ça qui pourrait être marrant aussi? Genre, putain.
J'y ai pensé.
Par exemple, prenons un peuple, je sais pas, les Portugais, ils ont pas beaucoup de philosophes. Ils ont Spinoza, mais encore, il est né à Amsterdam. Ouais. Du coup, ils ont pas trop grand monde. Il fait, ok, allez, les gars, on va aller niquer les Allemands.
Ah, chiant, parce que déjà, c'est un peu quoi.
Ouais, ou les Français.
Mais j'ai pensé à ça, effectivement, un truc un peu géopolitique, etc.
Ça pourrait être marrant, mais c'est très drôle aussi de se dire que t'as des sortes de terroristes. Qui disent ok, c'est des êtres humains, c'est un peu ça qu'ils disent, finalement c'est des êtres humains.
Ils disent finalement c'est des êtres humains, en plus là ils décident pour tout le monde,
ils sont pas contents de ça. C'est des sortes de vegan extrémistes, tu vois quoi.
Pourquoi vegan?
Je sais pas trop pourquoi vegan.
Ah, c'est de la chair animale, le mine en rien, tu vois. Parce qu'au final c'est plus des personnes, tu vois.
C'est vrai que les songeurs ils sont un peu à l'état de.
Tu veux dire, la question est est-ce que les vegans considèrent Jean-Paul Sartre comme un animal?
Non, mais je pense que par exemple.
Techniquement, oui, c'en est un, mais.
Techniquement, c'est de l'exploitation animal, entre guillemets, c'est de l'exploitation humaine.
Non, mais c'est vraiment ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le background de l'histoire, j'imaginais qu'ils étaient. Que l'autre, Sorrente, le mec de la sécurité, ouais. Il les déplaçait pour un G7 ou un truc comme ça. Genre. Il fallait les déplacer dans un endroit et à ce moment-là, le camion se faisait braquer par ce groupe-là, ouais, effectivement.
C'est extrêmement dangereux de faire ça, de déplacer toute la matière grise de l'État.
Peut-être qu'il n'y a pas toute la matière grise, mais en tout cas, il y en a une partie.
En effet, ça pouvait être peut-être un seul et en fait, ça se répète plusieurs fois. Bref, mais en tout cas, on n'est pas là pour ça.
C'est
très drôle, j'aime beaucoup. J'ai une autre. Remarque.
Vas-y.
T'en as, peut-être Florian veut ajouter
non,
quelque
c'est
chose.
Bon.
Moi j'ai une autre remarque. J'aime du coup l'idée que donc dans ce camion là, il y a tous ces mecs là, donc ils les sauvent.
Ouais.
Et donc il part avec. Ouais. Et donc là, quelque part, au moment où on se parle, sur une île tropicale, il y a Jean-Paul Sartre qui est en train de s'engueuler avec Albert Camus comme à l'époque. Mais il y a aussi Voltaire qui est là. Ouais. Il y a Simone de Beauvoir, Auguste Comte. Ils sont tous là.
Après, ils sont techniquement morts.
J'imagine que du coup, ils les réactivent.
Ils sont des cubes.
De ouf.
Non mais
c'est
ouais,
Cuba
mais
quoi.
C'est clair. En fait, ils les envoient en vacances quoi. Genre allez arrêter.
Imagine. Et moi, ce que je voudrais, c'est voir parce que du coup, c'est des intellectuels et je voudrais voir leur production après cette épreuve-là.
Ouais.
Genre le Sartre qui se rend compte de ce qui s'est passé, il fait l'existence précède de l'essence. J'ai d'autres choses à dire. Attendez. Portez-moi une machine à écrire.
Et alors aussi du coup, ce que je voulais parce que je cherchais la chute au début, je me disais qu'est-ce que peut demander le mec parce qu'effectivement lui, il les libère et il tue personne dans le camion parce que c'est un terroriste assez pacifiste qui veut pas tuer. Parce qu'au début, j'imaginais le mec il dit bon bah alors vous avez une heure pour démissionner du gouvernement et c'est un coup d'État en fait. Finalement, il fait pas ça. Et ce personnage-là, il est inspiré plus qu'inspiré parce qu'il a pris le même nom, mais de Alexandre Marius Jacob. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un des personnages qui a inspiré l'auteur d'Arsène Lupin. Je sais plus comment il s'appelle. Et qui était un libertaire du début du siècle. Je sais plus en quelle année. Enfin, il est né vers la fin du 19e siècle. Et je vous invite à découvrir l'histoire de ce type-là, Alexandre Marius Jacob.
Maurice Leblanc. Arsène Lupin.
Mais du coup, l'histoire de Marius Jacob, parce que c'était un libertaire qui avait une bande de cambrioleurs.
C'était un peu le
Robin des Bois,
c'est une vraie histoire de ouf.
Les Travailleurs de la Nuit. Il y a une BD là-dessus qui est pas mal, qui s'appelle aussi le Travailleur de la Nuit, je crois, c'est sur lui.
Ça peut pas parler d'autre chose, Travailleur de la Nuit, mais ok, admettons.
Ça peut parler d'autre chose, mais là, c'est pas ça. Et le mec, son histoire est genre vraiment, il cambriolait, mais de manière toujours, il se faisait passer pour des flics, il amenait genre son premier casse, il se fait passer pour un flic, il va chercher un type, il lui dit ouais on vous avait volé une montre ou dans vos trucs il y a une montre qui est une montre volée, alors faut nous suivre au commissariat, le mec les suit en commissariat, Il leur fait, vous m'attendez au commissariat là sur le banc.
Et pendant ce temps-là,
il dévalisait chez lui. Enfin, c'était que des espèces d'astuces. Comme
sa
ça.
Montre, ouais.
Il avait inventé des espèces d'astuces pour voler en passant par l'appartement du dessus, en faisant un trou dans le sol, de passer un parapluie, d'ouvrir avec un système de filet le parapluie en dessous, et ensuite d'agrandir le trou, mais du coup, les gravats tombaient dans le parapluie et réveillaient pas la. Enfin, que des malin. Trucs comme ça de fou.
On adore.
Et
on
bref, après, il se fait attraper quand même au bout d'un moment. Et son procès, allez lire, il y a Vice qui a fait un article dessus, sinon il y en a aussi sur Wikipédia. Mais t'as les répliques qui sortent au juge parce qu'il décide de se défendre lui-même.
Ouais,
et le
évidemment,
mec,
ouais.
Il est trop.
La classe à Dallas.
Ouais, non, mais il a de l'éloquence. Il a de l'éloquence, il arrive à convaincre tout le public et tous les téléjournaux reportaient le procès dans les. Enfin, les journalistes reportaient le procès dans les journaux. Et tout le public venait monter à Paris pour le défendre, genre libérer le machin, finir le procès à huis clos. Enfin, allez voir ça sur. C'est pas mal.
Attends. Tu fais pas une recommandation là quand même. Est-ce qu'on a une rubrique maintenant, si. Tu sais Non, on a une rubrique recommandation. Coup,
c'est off. C'est une recommandation off festival.
Off rubrique. Ça me va, parce que moi sinon j'allais me mettre en colère. Sinon, la classe, en effet, la classe, il laisse du vin. Et là, je comprends ton inspiration.
Pourquoi du rosé ?
Alors, j'ai sa réplique. Parce qu'en fait, donc, ce mec-là, il fait sa vie, il va au bagne, finalement, il revient. Mm-hmm. Il fait un dernier coup en revenant, parce que juste pour ouvrir, il est vieux, hein, il a 80, 90 ans. Mm. Il fait un dernier coup, il prend le truc pour taper sur la porte, là, des
heurtoirs.
Les heurtoirs en or d'un mec, il le remplace par une réplique. Enfin, bon, bref, il prend ce truc-là. Puis après, en fait, il finit par se suicider. Il tue son chien, il se suicide, son vieux chien qui est tout vieux comme lui, il se suicide et il laisse un mot à côté de lui, et le mot c'est « linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé, j'ai la cosse », qui veut dire « j'ai la flemme », excusez, vous trouverez 2 litres de rosé à côté de la panterie.
Ah oui, je m'en rappelle
à votre
de ça maintenant. Je m'en rappelle de ça maintenant. Et ça a été écrit par le chien.
Et dans ce qu'il dit, j'avais noté d'autres répliques, mais dans ce qu'il dit, il y a des trucs qui sont inspirés de lui. C'est le président du jury qui demande pourquoi vous faites plein de cambriolages en province, jamais à Paris. Je faisais de la décentralisation, c'est les consignes du ministère. C'est ce que dit le mec.
Ah, on aime beaucoup, on aime bien.
Enfin bon, bref, plein de trucs assez marrants, allez voir.
Et bah formidable, ça nous fait une sorte de recommandation, mais pas officielle, ok.
Non.
Ok, on aime bien. Merci. Florian, tu vas ajouter quelque chose parce que je suis devenu un peu autoritaire, t'as remarqué.
Non, ça va, moi j'ai pas
j'espère
envie.
J'espère bien.
D'aller à l'encontre de ton autorité.
Ok, et bah c'est super, merci, et c'était très bien.
Bravo.
Tu vois, tu nous as dit off que t'étais pas très content, mais c'est super. Faut que tu prennes confiance en toi.
J'avoue.
C'est comme pour le vélo, enfin avoir appris à 16 ans, c'est quand même tard. Bon bref, on en parlera plus tard parce que je comprends que ça te gêne. On va passer à la partie.
À la partie surprise.
Oui.
Donc on en parlera juste après, là, une petite virgule, parce qu'on fait les choses bien.
Carré.
Ouais.
Pro. Portrait chinois des Glingos nous a quittés lors de l'épisode 22 d'Alien et les garçons. La mort d'un être aimé, pour ses amis et sa famille, est toujours une grande tristesse. Pourtant, aujourd'hui est aussi une fête. Portrait chinois des Glingos a retrouvé les siens au royaume de notre Seigneur. Portrait chinois des Glingos, tu es mort, tu es parti, mais tu demeures dans nos cœurs. Tu nous as laissés sur le quai de la vie, mais nous te retrouverons au terminus. Si tes grandes qualités humaines ne faisaient pas de toi une bonne rubrique, tu as su pourtant nous réunir et nous aider à nous connaître. Chapeau l'artiste. Merci de ne pas applaudir.
Merci de ne pas applaudir.
S'il vous plaît.
Donc notre fin d'épisode sera consacrée au regretté portrait chinois des Glingos que nous avons perdu donc à l'épisode précédent. Et pour vous dire la vérité,
On s'est fait insulter.
Je suis sûr que tu m'as laissé ma voix.
Oh merde, je dis à chaque fois t'en mets ta voix.
C'est pour ça que je ne parlais pas. Je me doutais que tu avais laissé ma voix.
J'oublie tout le temps. Et oui, donc du coup, on va couper la musique.
Tout est réalisé en live, hein. C'est une vraie performance.
Ah, c'est une surproduction. Super production.
Du coup, oui, Portrait chinois des Glingos, on a décidé de le retirer pour la saison 2. On s'est dit, allez, on fait de la
nouveauté. Les gens nous connaissent.
Et ça plaît pas tant que ça aux gens. Et on a reçu suite à l'épisode précédent, faut expliquer. Lui, mais suite à l'épisode précédent où du coup on l'a pas fait, on a fait l'annonce un petit peu de manière maladroite peut-être, et du coup bah, on a reçu
la sensibilité de certains auditeurs.
Du coup on est absolument navré, on n'a pas changé d'avis, mais on s'est dit et ben on va lui rendre un dernier hommage pour faire ça bien, on va lui faire un pot de départ. Allez. Non, on va pas lui faire un pot de départ, on va s'en faire 2-3 d'affilée là, histoire de finir en beauté.
Une sorte d'éloge, c'est un baroud d'honneur.
Exactement. Et si vous du coup si vous faites partie de l'autre frange de la population qui n'aime pas le portrait chinois des Glingos, et bien l'épisode couper. S'arrête pour vous. Ouais. À la semaine prochaine, à dans 3 semaines bientôt. À bisous bisous. Et les autres restez. OK.
Et du coup, on a un auditeur qui nous a déjà proposé un, donc je pense
on va commencer par lui. Ouais.
Voilà. On va commencer par lui.
Mais on l'embrasse.
C'est voilà. Toc Toc, je crois, qui nous avait proposé ce portrait chinois des Glingos.
Oui, c'est ça. Toc Toc.
C'est Toc Toc Toc.
Et donc, la question de Toc Toc était si vous étiez un roman de SF ou fantastique.
De SF fantasy française, il avait même dit. Mais je pense qu'on va se permettre d'ouvrir un peu, parce que de toute façon, vu qu'on est en train de tuer le truc, on va se permettre d'ouvrir un peu pour taper SF fantastique tout
court.
Cette
personne ne nous en voudra pas, je pense. Voilà, plus en tout cas. Quoi.
Exactement. Il n'écoute plus, de toute façon.
De toute façon, c'est fini.
Non, on espère que tu nous écoutes encore. On t'apprécie beaucoup. Allez, qui veut répondre en premier? Qui?
Je commence.
Alors, si t'étais un roman de SF ou de fantasy? Pas nécessairement française.
Non, pas nécessairement. Je vais pas prendre un roman français du coup. Je vais prendre La Stratégie Ender de Orson Scott Card.
Alors, on connaît pas.
On connaissait pas.
Alors, je connais le nom d'auteur.
Alors, il y a eu un film qui a été fait sur ce roman, une adaptation, mais qui apparemment est naze. J'ai pas vu. C'est avec Harrison Ford.
Je crois, effectivement.
C'est pas terrible du tout, apparemment. Enfin, les critiques ne sont pas très bonnes.
La Stratégie Ender. J'ai vu le nom du film, mais je crois que j'ai déjà regardé ce film.
La Stratégie Ender, je crois que c'est le même nom.
Ah, très bien.
C'est un roman de SF un peu militaire.
Ah.
Dans lequel, pour vous faire le résumé très rapidement, mais il y a une civilisation extraterrestre qui s'apprête à détruire les Terriens qui s'appellent les Doriforts et qui ont déjà booté les Terriens il y a 50 ans. Bref, et pour lutter contre ça, non, alors on les voit jamais. Et pour lutter contre ça, ils forment des jeunes à la stratégie militaire.
Ok.
Dont ce petit Ender. Comme ça fait, c'est vraiment.
Et pourquoi ça te ressemble ça? Parce que tu es formé à la stratégie militaire toi-même?
Non, mais parce que je me suis retrouvé dans le fait de... J'ai toujours rêvé de combattre une race extraterrestre.
Ah, je comprends. Mais ça, c'est ton côté raciste. C'est pour ça que du coup, tu as adhéré à des partis d'extrême droite.
Exactement.
C'est ce qui se rapproche le plus de ça.
C'est ça. C'est
les choses... On respecte.
Voilà. Donc la stratégie Ender, je dirais.
Ouais. Florian?
Alors moi, j'ai choisi un bouquin qui n'est pas du tout français, hein, parce que c'est le bouquin Harry Potter.
Ah, je connais pas, c'est quoi?
Alors, Harry Potter, c'est l'histoire d'un petit garçon qui en fait est accepté à l'école des sorciers alors qu'il ne savait même pas qu'il était lui-même sorcier.
T'as choisi le 1?
Alors non, j'ai choisi toute la septologie.
Ah ouais?
Ah oui, je triche, j'ai choisi la saga, tu
vois. Septologie, on dit?
Je sais pas,
septicémie.
Là, j'ai choisi toute la septicémie parce que.
La septicémie Harry Potter.
Parce que pour deux raisons. Parce que de une, j'aime beaucoup porter des robes, comme vous le savez.
Ouais,
bien sûr.
Bah, comment
ça marche? Et des doudounes sans manches. Et pour une deuxième raison, en fait, c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais tout petit et c'est un peu le bouquin qui m'a poussé à lire ce genre de littérature, qui m'a poussé à lire tout court et j'encourage tous les jeunes gens à lire Harry Potter, pas les vieux gens,
non.
C'est fini maintenant, c'est trop tard, ça vous fera chier je pense,
ouais.
Mais tous les jeunes gens je conseille.
Très bien,
c'est bien.
Et ça, c'est un portrait chinois recommandation,
ouais. non, alors là non, je suis pas d'accord, c'est pas une recommandation, vous ne lisez pas les livres qu'on vous donne, hein, s'il vous plaît, hein.
Harry Potter, bon.
Et moi, toi, là. Moi je vais vous parler de l'inclinaison, enfin, je vais pas vous en parler, je vais vous dire que je suis l'inclinaison de Christopher Priest, je vous bassine tout le temps avec lui, c'est un auteur britannique qui est assez vieux maintenant. Il est encore vivant, il va bien, il vous embrasse. Et l'inclinaison, c'est un bouquin.
La croisée aux utopiales.
La croisée aux utopiales. Je me suis dédicacé un bouquin et je vais vous dire que ça m'a fait guider les zizi bâtons. Et lui, ça me plaît vachement ce bouquin parce que ça parle donc déjà de cet univers qu'il a créé qui s'appelle L'archipel du rêve, que je trouve très cool. J'aime pourquoi? Parce que c'est pas que de la SF, il mériterait qu'on le sorte de la SF parfois. Je trouve qu'il écrit des bouquins qui.
Il mériterait.
Non, mais parce que non, mais attends.
Drôle de choix de verbe.
On fait un putain de podcast sur la SF, tu vas pas me donner de leçons, Vic, s'il te plaît. Putain, je te fais que de gronder, hein.
C'est vrai. C'est Papa Toto, quoi.
Et Papa Toto, hein. Papa Toto. Et du coup, ouais, non, mais quand même, parce que c'est pas que de la SF, son auteur préféré, c'est aussi mon auteur préféré, c'est Roberto Bolaño, et il est le mec qu'on sent qu'il a une. Parfois il s'approche même pas du sense of wonder de la SF, il pourrait écrire simplement quelque chose de bien. Et du coup, c'est en ça que pour moi, c'est une forme de littérature blanche. Bon, bref, peu importe. J'ai choisi ce bouquin-là parce que ça me plaît, parce que ça, et aussi parce que ça parle de musique, ça parle d'un compositeur qui voyage dans les îles et qui trouve étrangement quelqu'un qui fait la même musique que lui, il comprend pas pourquoi, et on comprend à la fin, c'est toujours très bien, il y a toujours un petit twist à la fin. Moi, je suis comme ça, j'ai un petit twist à la fin. Voilà. Très bien. Très on va essayer d'aller vite parce qu'on voulait pas trop s'attarder là-dessus et parce que déjà que c'est déjà.
Non, mais laisse les gens profiter. C'est peut-être la dernière fois qu'ils croisent un portrait chinois dans leur vie. Il faut apprécier ce moment.
En tout cas, c'est sûr.
Le portrait chinois des Glingos, il faut apprécier ce moment.
Oui, tu as raison, on va faire ça. Si vous étiez un site internet.
Ah, alors moi j'ai choisi. Je peux commencer ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'en fait.
Du coup, si tu as choisi Harry Potter, est-ce que tu as choisi Google ?
Non. Par contre, j'ai choisi O-Game. Parce qu'en ce moment, on s'est relancé sur O-Game avec quelques personnes autour de la table. Et c'est un site qui m'a beaucoup. J'ai passé beaucoup de
alors,
temps.
Alors, si vous avez moins de 30 ans. Vous ne connaissez pas. Non, moins de 30 ans. Moins de 25 ans, vous ne connaissez pas.
Ouais,
O-Game, ça sert à rien de lire non plus. C'est comme Harry Potter, n'allez pas voir O-Game.
Oh, si, c'est bien O-Game. O-Game, c'est quoi ? C'est un jeu sur navigateur, en fait, où tu es un commandant d'une planète et tu dois faire évoluer ta planète, tout simplement. Et tu dois t'étendre, augmenter la taille de ton empire, potentiellement aller piller des gens, potentiellement aller casser les couilles d'autres gens, etc.
Ça, c'est tout à fait toi, c'est vrai.
Oui, mais je trouve ça pas mal.
C'est pas mal.
Et j'ai passé énormément de temps quand j'étais jeune, quand j'ai découvert Internet, et même encore aujourd'hui. Donc, du coup, je pense que ça me caractérise assez bien.
On est d'accord. Moi, je suis Wet But Why.
Ah !
Toi aussi ?
Oui.
Ah, trop bien, t'as plat.
Son design, c'était nul.
Ouais, mais j'ai parce que je voulais pas taper dans le micro, attends. Putain. Ouais. Yes,
ah,
ah bah t'es pareil.
On est, ouais, j'ai choisi Wet But Why aussi.
Ok, bah alors vas-y, explique. Bah parce que, bah, on explique ce que c'est déjà.
Toi.
Parle-nous de ça alors. Parle-nous de Wet Boy.
On en a déjà parlé de toute façon, mais il fait notamment, par exemple, un article sur Neuralink.
Ouais.
Le meilleur article sur Neuralink que vous pourrez trouver sur Internet, c'est lui. Alors bon, faut l'anglais, mais bon, nous en anglais, on n'est pas
très long.
C'est très long, ça met une semaine à être lu. Mais allez le voir, il fait de la vulgarisation, il dessine, il fait des bonhommes en bâton, et c'est très rigolo.
C'est très bien.
C'est très très bien.
Voilà, on va enchaîner parce qu'on a encore deux questions à se poser et on commence à tarder. Si vous étiez un emoji.
Moi, je suis. J'hésite entre deux. J'hésite entre deux. Entre celui qui pleurait comme un peu un personnage de manga, là.
Ah, il est cool, lui. Il est cool. Ouais.
J'aime bien celui-là, parce qu'il dit plein de trucs, je trouve.
Ouais, il peut tout dire.
Et le salut Vulcain, parce que c'est je fais toujours le salut Vulcain. Ouais.
Enfin, on l'aime beaucoup.
Voilà, on l'aime beaucoup.
Florian.
Alors, moi, c'est pas facile à décrire. Surtout que c'est pas du tout radiophonique.
Aubergine.
Non, j'ai hésité longtemps, mais non. Non, c'est le smiley moitié bleu, moitié jaune, avec les deux mains sur le visage, qui fait un peu une tête de scream.
C'est le cri de Clint.
Ouais. C'est ça. Et moi, je l'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il fait un peu drama queen et je l'utilise extrêmement souvent.
Munch. ouais, je suis d'accord, je l'aime beaucoup.
Et toi, je sais lequel.
Moi, je trouve que ça ressemble un peu vos deux emojis. Et moi, c'est quoi ton avis, Vic ?
C'est celui qui a un trait pour chaque œil et un trait pour la bouche.
Non, moi, je sais, moi.
Alors, j'aime beaucoup lui, je l'adore celui-ci. C'est un de mes préférés. C'est l'emoji poker face qui bouge pas. Ouais. Et en fait, c'est l'emoji je subis. Tu l'envoies à quelqu'un, je subis. Ouais. Et j'ai dit quoi ?
Toi, c'est l'emoji trou.
Oui, j'adore l'emoji trou aussi. C'est mes deux préférés, vous avez raison.
C'est quoi trou ?
Il y a un emoji, c'est juste un trou.
C'est juste un trou.
Et vas-y, et quelqu'un t'envoie un message, tu lui réponds juste emoji trou ? Tu peux pas, c'est dangereux, Mike. C'est genre emoji trou. Bref, bon, ok.
Okay.
Une petite dernière, après on va s'en aller en faisant la fête parce que c'est les 1 an de l'anniversaire, frère. Mes petits messages de ma mère. Coucou Thomas, je n'ai pas de nouvelles, j'espère que. Si vous étiez un animal, c'est vrai, tout ça est vrai. Ouais. Si vous étiez un animal qui n'existe pas.
Vas-y, commence.
Bah moi, du coup, j'ai pas choisi un animal, j'ai choisi un alphelin. Mais bon.
Ah, intéressant.
Oui, parce que alors, qu'est-ce que c'est un alphelin ? C'est une sorte de hobbit, mais dans un autre univers, l'univers de Donjons et Dragons, et notamment des Royaumes Oubliés, dont j'ai déjà parlé. C'est un univers que j'aimais beaucoup quand j'étais ado, parce que je lisais les bouquins, j'ai joué à Baldur's Gate, qui est mon jeu préféré de tous les temps, et que c'est normal, parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Et puis en plus de ça, il a un côté jovial, assez blagueur, assez petit, c'est des petits bonhommes, hein, du coup, et on aime bien.
Ouais.
Et c'est pas un animal, mais après tout. On a bien dit que Jean-Paul Sartre était un animal. Donc, est-ce que Jean-Paul Sartre est un alphelin ? Je ne sais pas. Florian.
Alors, moi, je ne suis pas loin de toi du tout parce que j'ai choisi un gobelin.
Un gobelin ?
Un gobelin. Parce que gobelin, on en retrouve dans pas mal d'œuvres de SF, de fantastique
surtout
et compagnie.
Fantastique, ouais.
Surtout fantastique. Et parce que c'est un peu des fouines. Et je pense que vous me connaissez assez bien. Je pense que je suis un peu
une fouine. On a appris dans ce dernier portrait chinois des Glingos que tu t'aimais porter des robes, que t'étais une fouine
fan de Harry Potter.
Fan de Harry Potter.
Pour les plus pointus, pour ceux qui connaissent bien le Harry Potter et tout, au final, je pourrais être un elfe de maison. C'est une sorte de gobelin qui porte des robes au final. Quoi.
On peut arrêter avec Harry Potter, on déteste tous Harry Potter.
Non, vous dites non.
Non, ok, on aime bien, Florian.
Bah oui, mais
gobelin alphelin, on est un peu copains comme cochon.
C'est vrai.
Vic ?
J'ai choisi un oiseau de 50 mètres d'envergure. C'est pas
issu. Tu l'as choisi de venir.
Ouais, parce que ça me passionne.
Un oiseau de 50 mètres d'envergure,
j'adorerais être un oiseau de 50 mètres d'envergure.
T'as même pas dit aigle géant, de.
Non, mais c'est pas. Il vient pas de la littérature, il vient pas des jeux vidéo, il vient pas du cinéma, c'est juste un oiseau gigantesque. En ce moment, ça me passionne. J'arrête pas d'imaginer ce que ça ferait s'il y avait des oiseaux géants qui existaient comme ça.
Ok.
C'est une sorte de dragon, mais encore plus gros, quoi.
Et bah, vous savez quoi? C'est la fin. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On fait la fête.
On fait la
danse.
Pourquoi?
On fait la fête, on souffle des bougies et on picole.
Anniversaire.
Et oui, c'est parti.
Vous ne voyez pas Florian, mais alors en plus d'avoir le droit d'être une fouine, il danse magnifiquement bien.
Je pense qu'on va saturer de ouf, mais c'est pas grave. On vous dit bisous dans 3 semaines, c'est la fin. Nous, on va aller se faire la fête de ouf, n'est-ce pas? De ouf, à moins qu'on ait juste dîné. Bon, on va voir. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi?
On dit comme d'hab, Facebook, Twitter, Spotify, iTunes, lâchez des pouces bleus, dites-nous merci, envoyez-nous des thèmes, demandez-nous des cartes postales, on a fait un stock du coup. N'hésitez pas, et surtout bientôt le bouquin, le premier livre d'Alain et Garçon, la saison 1, en vente chez tous les meilleurs libraires de l'Île-de-France et de Saint-Ouen.
Ceci n'est pas vrai, n'oubliez pas, mais bref.
Ceci n'est pas vrai,
on vous le livre, c'est vrai.
Oui, mais oui, pas le reste. Allez, bisous, à dans 3 semaines.
Ciao. Now make that asshole jump. Kid money like to get bucked. So come here, girl, cause you're about to get fucked. Flag pack, be rockin' it. All the hoes, just jockin' it. Kid money, be rockin' it. For real though, so let's go. Yo, I wanna see you sweat trap. So get in my face and make that ass clap. G straight from the back. Just shake that ass for the splash. Shake that ass.